gap, des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour et bienvenue dans Parlons Franf. Pour réaliser et animer ce 26e numéro, Jean-Philippe Planck et Julien Maille de Radio Plus à Douvrin.
Bonjour.
Bonjour.
Joris Nassens de Radio Club à Wallers à Ramberg.
Bonjour.
Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée à Vitry-en-Artois.
Bonjour.
Et Jean Pascalini de Radio PFM à Arras.
La laïcité est au cœur de notre vie sociale. Elle est aussi l'objet de discussions et de débats, mais aussi de polémiques politiciennes. Les associations sont depuis quelques années interrogées sur leur caractère laïque et sur leur attachement aux valeurs républicaines, voire questionnées sur leurs actions de promotion de ces valeurs lorsqu'elles font des demandes de subventions. Contrat d'engagement républicain, charte de la laïcité et des valeurs républicaines en sont des illustrations.
Face à cela, les associations se retrouvent dans une situation quelque peu bizarre, où pointent doutes et suspicions. Pourquoi interroger tout le monde si le problème éventuel peut être ciblé et si ce n'est pas le cas, c'est encore plus inquiétant et suspicieux. Du coup, certaines questions apparaissent. De quelle laïcité s'agit-il ? Pourrait-elle n'être qu'un prétexte ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous vous proposerons d'écouter des personnalités qui sont intervenues lors du congrès du Syndicat National des Radios Libres, congrès qui s'est tenu à Arras du 16 au 18 novembre 2022. Nous vous proposerons aussi le témoignage d'une association locale de notre région qui promeut la laïcité.
Pour commencer, nous vous proposons d'écouter Patrick Veil. Il nous expose ce qu'est la loi de 1905, la loi sur la laïcité. Patrick Veil est directeur de recherche au Centre d'histoire sociale du XXe siècle du CNRS, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre de la laïcité en France, paru en 2021 aux éditions Grasset.
La loi de 1905, on peut lire ce que je fais toujours quand je fais mes conférences, on va lire ensemble l'article 1er. La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Il y a une différence de statut entre les deux phrases. La liberté de conscience, il n'y a aucune réserve d'ordre public. Ce que vous pensez en vous-même, dans votre fort intérieur, c'est une liberté absolue. Qu'est-ce que ça veut dire le libre exercice des cultes ? Franchement, je ne vous pose pas la question, mais moi, quand je me la posais il y a encore 5-6 ans, je me disais, c'est le droit d'aller à l'église, à la mosquée, au temple, à la synagogue pour prier. Eh bien, j'avais tort. C'est bien au-delà de ça. Et comment j'ai trouvé que c'était bien au-delà de ça ? C'est que je regarde les débats parlementaires et on interroge Aristide Briand. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le libre exercice des cultes ? Il dit... C'est toute expression extérieure de la foi, et il ajoute, c'est le terme juridiquement consacré. Alors, quand il dit ça, je me dis, il doit y avoir une jurisprudence. Et donc, je vais dans les sous-sols de la bibliothèque Cujas à Paris, où il y a la bibliothèque de droit, et je retrouve le Dalloz d'avant 1905, et effectivement, le poteau rose est là. Il y avait dans le code pénal d'avant 1905, un article qui disait que si on empêchait quelqu'un d'exercer son culte, on était passible d'une peine d'amende ou de prison, si on faisait une pression. Alors, du coup, les tribunaux avaient défini l'exercice du culte par rapport à la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est le fort intérieur. Et toute extériorisation de la foi, c'est l'exercice du culte. Si en sortant de cette réunion, vous sortez dans la rue avec une expression religieuse, une kippa, une croix, un foulard, vous exercez votre culte dans la rue, vous manifestez à titre individuel pour les gens qui vous regardent votre foi. Et à ce titre, l'exercice du culte, il peut être individuel dans la rue ou il peut se faire collectivement dans des lieux organisés pour l'exercice du culte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce terme de l'article 1 qui a été choisi en fonction du code pénal d'avant 1905. On a mis l'article du code pénal dans la loi de 1905, sauf qu'on l'a équilibré. On a dit toute pression pour empêcher quelqu'un d'exercer son culte ou pour le contraindre est passible d'amende ou de prison. Et l'article 2 qui dit que la République ne reconnaît et ne salarie, ne subventionne plus aucun culte, c'est-à-dire que là, c'est la loi qui sépare l'État des Églises. Qui était, avant, nous avions le régime du Concordat, où, qui avait été signé par Napoléon avec le Vatican, qui faisait du catholicisme l'inspirateur de l'État français et qui permettait et qui faisait que les contribuables payaient les salaires des ecclésiastiques catholiques, l'entretien des églises, et on avait étendu ce régime pour ce qui est des salaires et de l'entretien des lieux de culte aux protestants et aux israélites. Tout ça est supprimé, ce qui fait que ça met à égalité tous les citoyens, croyants ou non croyants, et puis ça nous sépare du lien spirituel avec le Vatican, et l'État français devient non pas anti-religieux, mais a-religieux. Il devient agnostique, il ne se prononce plus sur l'existence de Dieu. Mais là aussi, comme pour l'article 1 qui prévoit la liberté de conscience et l'exercice des cultes, il y a une protection pénale, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'article 34, l'article 35, ce sont des protections de la séparation. Il y a un article 32 qui dit que si on va perturber l'exercice collectif d'un culte, on est passible aussi d'une peine d'amende ou de prison. Donc ce qui est intéressant, et ça je vous le dis parce que c'est absolument fondamental, ces articles 1 et 2 qu'on vous cite sans arrêt pour dire voilà ce que c'est que la laïcité, ils sont incompréhensibles si on ne parle pas des dispositions pénales qui les protègent. Ça a été explicité comme ça par un des rédacteurs de la loi qui a dit « Quand on proclame le droit de propriété dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ben, s'il n'y a pas des mesures pour faire sortir quelqu'un de chez vous au cas où il occupe votre logement, ben, c'est du pipeau la proclamation du droit de propriété. » Et ben, c'est pareil pour la liberté de conscience, le libre exercice des cultes ou la séparation. S'il n'y a pas des dispositions pénales pour les protéger, c'est du pipeau. C'est pour ça que depuis que j'ai compris, et c'est ce que je dis dans mon livre, lu ça, ben sur l'article 1, je dis la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire sans pression. Parce que si vous faites pression sur quelqu'un pour forcer à exercer un culte ou l'en empêcher, vous êtes passible d'amende ou de prison. Et de même que la séparation, elle est garantie par, par exemple, les dispositions dont j'ai parlé sur qui auraient pu concerner l'imam de la mosquée de Pantin s'il avait été poursuivi.
Laïcité et liberté d'opinion, toujours avec Patrick Veil.
Peut-être que, comme je ne veux pas monopoliser la parole, je vais rajouter une dernière chose pour distinguer la laïcité de la libre expression des opinions. C'est différent. Samuel Paty, il est mort d'avoir expliqué ce que c'était que la liberté d'opinion. Et là, je dois vous dire que pour le faire comprendre à des jeunes, il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de raconter d'où elle vient et pourquoi elle est si importante aux yeux de tellement de Français. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas loin d'ici, à Abbeville, en 1765-66. Après une nuit de tempête, une croix de bois tombe sur un pont et l'évêque appelle à une enquête pour laquelle tout le monde doit parler, sinon il va en enfer. Les gens n'ont rien vu, mais évidemment, ça n'empêche pas des gens de parler et de dire qu'ils ont vu des jeunes chanter des chansons, anticléricales, d'avoir aussi vomi dans un cimetière devant une croix, etc. Donc, ils partent à la recherche de trois ou quatre d'entre eux, Trois d'entre eux s'enfuient et un jeune de 19 ans, le chevalier de la barre, dit « je n'ai rien fait ». Et donc j'accepte d'être arrêté. Il n'avait absolument rien fait, simplement il ne s'était pas découvert devant une procession. Et sous le prétexte qu'il serait responsable de cette croix tombée, il est condamné à la décapitation, après avoir subi le supplice de la torture pour lui faire parler sur ses complices. Alors, ça va en appel à Paris. L'évêque même demande sa grâce, mais comme ce délit de blasphème est dans la loi de l'État, c'est le roi qui décide et le roi lui refuse la grâce demandée par l'évêque. On lui brise un poignet et on lui fait laisser passer une nuit, puis on lui brise les genoux, les os des bras, et pour mettre fin à son supplice, on lui coupe la tête et on brûle son corps sur le bûcher qui a été installé sur la place de la mairie d'Abbeville, avec accroché à son corps, sur l'épée, le dictionnaire philosophique de Voltaire. Et Voltaire, qui n'a pas pris position avant, met un certain temps pour écrire, comme il l'a fait pour l'affaire Calas, quelque chose sur le supplice du chevalier de la barre. Et ce qu'il écrit va traverser le pays et va bouleverser la masse des catholiques de France. C'est une affaire qui va beaucoup plus que l'affaire Calas, tellement bouleverser la masse des catholiques qu'il y a une sorte de scission. Et qu'au moment de la Révolution française, quand dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on proclame la liberté d'opinion, y compris religieuse, c'est eu égard à l'affaire du chevalier de la barre. 2 ans plus tard, dans le premier code pénal, le délit de blasphème est rayé du code pénal. Et en 1808, le plus grand juriste de la Révolution, l'un des plus grands juristes, Merlin de Douai, donc pas loin non plus d'ici, écrit dans son dictionnaire de jurisprudence « La France frémit encore du supplice infligé au chevalier de la barre ». Et on a lu tout à l'heure ensemble ce que déclare Victor Hugo au moment de la célébration du centenaire de la mort de Voltaire. Vous pouvez aller le regarder, c'est bouleversant. Ça bouleverse encore plus d'un siècle plus tard l'ensemble du pays. Et quand vous racontez pourquoi on a préservé cette liberté d'opinion, y compris à l'égard de la religion, des dieux, etc., et que ça nous vient de cette affaire, il n'y a pas un jeune dans une classe qui ne frémit pas en solidarité avec ce jeune de 19 ans qui a été décapité en 1766. Et donc, mais ce qui est très intéressant du point de vue de la comparaison entre la laïcité et la liberté d'opinion, toutes les deux se sont libérées de règles religieuses, puisque le blasphème, c'était une règle religieuse mise dans notre droit, et avant, nous avions la catholicité, et non pas la laïcité. Mais pour cette libération, n'a pas produit le même type de régime juridique. Celui de la liberté d'opinion que vous connaissez bien, c'est quelque part le droit à l'irrespect qu'on n'a pas laissé à ce jeune chevalier. Alors que la laïcité, elle organise le respect de toutes les options en matière religieuse, le droit de croire, de ne pas croire, ou bien de changer d'option d'ailleurs au cours de sa vie. Et donc ça, c'est très important, parce que souvent, on dit « Ah oui, Paty, c'est la laïcité, on vous montrera une petite vidéo où les gens font encore cette confusion. » Non, c'est la liberté d'opinion. La laïcité, c'est le débat que là, il y a encore de nouveau sur, par exemple, sur les vêtements à l'école. Mais pour le comprendre, la conséquence de la séparation, c'est que là, il y a plusieurs espaces qui se créent. L'espace de l'État devient neutre. Je dis souvent, après avoir dit aux jeunes, c'est le droit de croire, de ne pas croire, sans pression, et si ton professeur, même si il ou elle croit en Dieu, ne porte pas de signe religieux quand ils font cours, c'est pour ne pas faire pression sur toi. Ah, tiens, ça parle. Et donc, il y a cette séparation qui fait que les fonctionnaires, pour ne pas faire pression sur les citoyens et leurs enfants, ne portent pas de signes. Après, il y a l'espace du lieu de culte où là, par exemple, si vous êtes un homme, vous vous découvrez la tête quand vous entrez dans une église, vous la couvrez quand vous entrez dans une synagogue et vous vous enlevez vos chaussures quand vous entrez dans une mosquée. Après, vous avez l'espace de votre domicile où vous faites les règles que vous voulez dans le respect de la loi générale, bien sûr. Et après, il y a tout le reste dans lequel il va y avoir des batailles. Parce que tout le reste, il y a toutes sortes de citoyens qui ont toutes sortes de croyances ou d'absences de croyances. Et il va y avoir des batailles de frontières. Eh bien, pour dire les choses très simplement, moi j'ai fait partie de la commission Stasi en 2003, ce qui se passait, c'était qu'il y avait des pressions. Et pas que, le problème n'a pas été le voile des jeunes filles qui étaient voilées, parce qu'elles ne faisaient pas de pression. C'était des groupes de garçons, qui étaient des jeunes frères musulmans, on l'a su plus tard, qui faisaient pression sur les filles qui ne le portaient pas et qui disaient « Ta sœur le porte, tu as le droit de le porter, si tu ne le portes pas, c'est que tu as fait le choix de ne pas le porter, donc tu es une mauvaise musulmane, on va te faire ta fête à la récré. » C'était ça le problème. Et comme ça se passe dans d'autres pays ou les États-Unis où j'enseigne, dans les espaces où il y a des enfants mineurs, vous ne réglez pas ça dans les tribunaux, sinon vous transformez la cour de récréation en cour de justice. Et c'est pour ça qu'on a proposé l'interdiction de la cause de ces pressions, c'est-à-dire les signes religieux qui se voient, qui ne peuvent pas se cacher, je dirais, les signes ostensibles, et que c'est maintenant dans la loi de 2004. Mais on l'a fait aussi parce qu'on savait que sous un régime, notre régime très particulier des écoles privées sous contrat, les écoles privées sous contrat doivent accepter des enfants de toute confession, et souvent, et eux ne sont pas soumis à la loi, et donc ils peuvent accepter des enfants qui portent des signes religieux. Donc voilà, je vous ai un peu donné le cadre de tout ça, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je suis bien sûr prêt à répondre à toutes les questions. Mais pour vous dire, dernière chose par rapport à la loi, l'esprit de la loi, ce n'est pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais si s'il y a des violations de la séparation, des pressions, etc., on va devant le juge. Et c'est ça qu'il faut enseigner, parce que le juge, il va apprécier la situation. Il ne va pas toujours aller dans la même direction. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, après 1905, quand Aristide Briand saisissait la justice. Certaines fois, il gagnait, certaines fois, il perdait. Mais les juges ont fait leur travail, ils ont créé une jurisprudence. Ce n'est pas anormal, c'est normal qu'il y ait des tensions sur l'interprétation de la loi. Et quand on n'est pas d'accord, on va devant le juge. C'est ça l'état de droit. Aux États-Unis, où j'enseigne, les cas, ce genre de cas, il y en a tous les ans qui viennent à la Cour suprême. Il y a des batailles. Mais c'est la Cour suprême qui décide. Et chez nous, c'est le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
Parlons Franf, le magazine des radios associatives du nord de la France, 26e numéro consacré à la laïcité. Après avoir écouté Patrick Veil, nous allons aborder maintenant la question du contrat d'engagement républicain qui s'applique aux associations. Claire Bizet est directrice du mouvement associatif en Hauts-de-France. On écoute un extrait de son intervention au congrès du SNRL.
Le contrat d'engagement républicain, il s'applique à toutes les associations qui font des demandes de subventions publiques. Alors quand on parle de subventions publiques, c'est soit des financements, mais ça peut être aussi quand une mairie vous met à disposition un local, du matériel, c'est considéré comme une subvention, donc ce contrat s'applique également. C'est donc le document par lequel les associations s'engagent à respecter les principes de la République. Il est donc obligatoire dans le cadre des demandes de subventions et dans le cadre aussi des attributions d'agréments. Vous savez qu'il y a des associations qui sont agréées, jeunesse éducation populaire, enfin il y a un certain nombre d'agréments. Et si on veut être agréé aujourd'hui, il faut aussi souscrire à ce contrat. L'association s'engage moralement à respecter ce contrat et il est opposable par les autorités en cas de non-respect. Donc c'est important de savoir un peu qu'est-ce qu'il y a quand même dans ce contrat d'engagement républicain. Et après, on verra un peu peut-être les problèmes que ça pose, mais je vais essayer de ne pas être trop longue. L'engagement numéro un, c'est le respect des lois de la République. Alors, on peut se dire qu'on n'avait pas forcément besoin de signer un contrat pour ça, parce qu'a priori, toute association respecte les lois de la République. L'engagement numéro deux, c'est la liberté de conscience, on vient d'en parler. Donc l'association s'engage à ne respecter, protéger la liberté de conscience de ses membres, à ne pas exercer de pression, comme on l'a vu. Mais cet engagement, je le précise, ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations, dont l'objet est fondé sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion à l'égard des valeurs et des croyances de l'organisation, puisqu'on considère que les personnes sont libres d'adhérer ou non à ces associations. L'engagement numéro 3, c'est la liberté des membres de l'association. L'association s'engage à respecter la liberté de ses membres à s'en retirer. L'engagement numéro 4, c'est les questions d'égalité et de non-discrimination. L'association ou la fondation s'engage à respecter l'égalité de tous devant la loi et elle s'engage à respecter dans son fonctionnement interne, évidemment, à ne pas opérer des différences de traitement selon les genres, selon ne pas faire subir de discrimination à ses adhérents. L'engagement numéro 5, c'est un engagement autour de la fraternité et de la prévention de la violence. L'association s'engage à agir dans un esprit de fraternité, de civisme. Sur les deux derniers engagements, on parle de respect de la dignité de la personne humaine. Et enfin, sur le dernier engagement, l'engagement numéro 7, elle s'engage à respecter les symboles de la République qu'on nous énumère, donc le drapeau tricolore, l'hymne national et la devise de la République. L'association qui a souscrit à ce contrat s'engage à ce que tous ses membres soient informés de la souscription à ce contrat. L'autre élément qui implique ce contrat, c'est la responsabilité des dirigeants de l'association. Et donc l'association est tenue, et les dirigeants de l'association sont tenus, de vérifier que tous leurs membres, bénévoles, salariés, respectent les conditions de ce contrat d'engagement. Donc ça veut dire qu'il s'étend à l'ensemble des bénévoles et des salariés. Alors bien évidemment, on ne parle pas de ce qu'un salarié va pouvoir exprimer dans le cadre de sa vie personnelle, dans un cadre personnel, et un bénévole de la même manière. Mais dès lors qu'il est dans une activité qui engage l'association, il doit respecter ce contrat d'engagement républicain. Ce qui pose quand même, ce qui fait reposer quelque part presque une obligation de surveillance sur les dirigeants associatifs vis-à-vis de leurs membres et de leurs bénévoles, ce qui est quand même une responsabilité importante. Et ce qui pose un autre problème aux réseaux associatifs et aux fédérations, puisqu'en fait, et ça, la loi ne l'avait pas prévu, et on a pu, nous, mouvement associatif, dans les discussions qu'on a eues avec le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il s'est agi de rédiger un peu les décrets d'application de cette loi, le ministère de l'Intérieur n'avait pas imaginé qu'une association puisse avoir des personnes morales comme adhérents. Les associations sportives, notamment, ont dit « Mais nous, une fédération sportive qui rassemble des milliers de clubs sportifs, comment est-ce qu'on peut garantir que tous les adhérents et tous les bénévoles de tous les clubs sportifs, ça n'est pas possible pour nous à notre niveau. » Personne n'a encore tranché cette question, hein, parce qu'il n'y a pas eu encore de jurisprudence sur ce sujet. Donc ça, c'est le cadre légal. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'un acteur public, l'État en l'occurrence, mais aussi une collectivité, dès lors qu'elle donne une subvention publique, doit vérifier que l'association a bien souscrit à ce contrat et que si l'association, quelque part, n'a pas respecté les engagements à ce contrat, alors la puissance publique peut dénoncer la subvention, c'est-à-dire soit ne pas la verser si elle n'a pas été versée, soit demander la restitution de la subvention. Et ça peut ensuite aller en justice. Il n'y a encore pas eu beaucoup de cas de recours juridiques. Un à ma connaissance, mais peut-être plusieurs, mais en tout cas il y en a un qu'on peut citer et qui rejoint les débats sur la laïcité. C'est une mairie qui a attaqué le planning familial qui, dans le cadre d'un forum associatif, sur une banderole, il y avait une femme voilée. Et le message du planning familial, c'était de dire « toutes les femmes sont bienvenues au planning familial ». Et la mairie a attaqué au motif de non-respect du contrat d'engagement républicain sur des questions de laïcité. L'association a gagné. Simplement, il faut se dire aujourd'hui que le juridique est quand même notre meilleure défense, qu'il ne faut pas qu'on hésite à aller au juridique sur ces sujets, parce qu'en plus, ça va faire jurisprudence. Les points de vigilance que nous, on a soulignés. Le premier, c'est une nouvelle charge. Et il se trouve qu'on a des collectivités, comme le Conseil régional chez nous, qui, en amont de ce contrat d'engagement républicain, avaient mis en place une charte de la laïcité. Nous, quand on discutait avec eux, on leur a dit, bah, maintenant qu'il y a le contrat d'engagement républicain, ça fait doublon, est-ce que vous allez garder votre charte de la laïcité ? Parce que là, il s'agit d'éditer un texte, de le signer, de le déposer sur une plateforme, et on nous demande aussi des bilans. Alors, ça pose une autre question, c'est-à-dire qu'on peut s'engager à respecter des principes de la République et de la laïcité, on ne s'est pas engagé à faire la promotion de la laïcité. Et puis, ce n'est pas notre métier. Nous, on leur dit, il y a des associations, une association sportive, elle respecte la laïcité, mais est-ce que c'est son métier d'aller convaincre tout le monde d'être laïque ou d'expliquer ce qu'est la laïcité ? Non. Et quand je parle de surcharge administrative, bah, c'est que, pour le coup, la région impose cette charte et ne l'a pas retirée maintenant qu'il y a le contrat d'engagement républicain, alors même qu'on pourrait dire que ça fait doublon. Le deuxième, c'est quelle appréciation de la laïcité ? Récemment, il y a un centre social dans notre région qui s'est vu retirer ses financements parce qu'une de ses animatrices est voilée. Et il y a beaucoup de flou aujourd'hui sur qu'est-ce qui s'applique. C'est-à-dire une association, c'est une structure de droit privé. Donc, dans la tête de beaucoup de fonctionnaires, nous devons respecter les mêmes obligations que les espaces publics, le service public, et l'école, etc. Or, juridiquement, ça peut se discuter. Et en tout cas, on voit qu'il y a cette tentation de dire que les associations sont soumises au régime du service public. Il y a la question aussi de l'appréciation juridique de qu'est-ce que l'ordre public. On s'engage à ne pas troubler l'ordre public. Et là, on voit bien comment ça peut être interprété par l'État pour régler des problèmes, enfin que lui considère être des problèmes, mais sur la question des associations militantes. Très clairement, la question des associations qui militent sur l'environnement, c'est-à-dire à un moment, des militants bénévoles qui vont aller s'opposer à un projet qu'ils considèrent comme devant nuire à l'environnement, qui parfois d'ailleurs vont en justice, y compris parfois contre l'État pour qu'il applique ses propres lois, ce contrat d'engagement républicain, on voit bien comment ça peut être interprété. C'est pour ça que nous, on a dénoncé ce contrat comme portant atteinte à la liberté associative. Déjà que ça amène des associations à s'auto-censurer sur des actions qu'elles peuvent faire. Moi, j'ai des associations dans les quartiers politiques de la ville qui me disent « Ah, ben, j'ose plus mettre des photos de femmes voilées dans mes rapports d'activité parce que j'ai peur de me faire pointer du doigt. » Or, si plus personne ne va faire des réunions dans les quartiers avec des femmes voilées, on ne va plus beaucoup parler de féminisme dans les quartiers. Hein. Voilà, il y a cette question-là qui reste aujourd'hui pour nous un sujet d'inquiétude et d'interrogation sur l'interprétation de la loi et l'utilisation qui va en être faite.
Parlons Franf.
La radio autrement. Des sujets régionaux,
un ton libre,
des reportages de terrain,
du débat contradictoire mais constructif.
Une parole franche.
Parlons France.
Le magazine Made in France.
La question de la liberté d'expression est au centre des interrogations sur le contrat d'engagement républicain. Après Claire Bizet, le point de vue d'Agnès Tricouard. Agnès Tricouard est avocate à la Cour, docteur en droit, membre élu du Comité national de la Ligue des droits de l'homme et fondatrice de l'Observatoire de la liberté de création.
En fait, je voudrais dire que la laïcité aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle religion contre laquelle on ne peut plus blasphémer. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé sur les lois du 19e siècle qui interdisaient le blasphème et qui ont amené à la condamnation d'auteurs. Vous connaissez tous sans doute les procès contre Baudelaire et Flaubert. La loi de 1881, la grande loi sur la presse, est venue mettre un terme à cela. Et il y a eu des débats parlementaires en 1882 pour essayer de réinstaurer le délit de blasphème qui n'a pas été réinstauré. Et la loi de 1905, d'une certaine façon, vient consacrer cette séparation et donc ce droit de dire ce que l'on veut des religions. Et aujourd'hui, avec ce texte qui limite considérablement la liberté d'expression de façon très générale, et d'ailleurs, et pas seulement au regard de la laïcité. Claire vous a lu tout à l'heure l'engagement numéro 1. Je rappelle que il est dit le respect des lois de la République s'impose aux associations et aux fondations qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune manifestation contrairement à la loi en général, pas à la loi sur la laïcité, ce qui veut dire que toute association qui ne serait pas d'accord avec un dispositif législatif nouveau et qui l'exprimerait serait en contravention avec avec ce texte, ce qui est absolument inouï, c'est-à-dire c'est insupportable. Il est dit aussi dans l'engagement numéro 6 que les associations ou fondations doivent s'engager à ne pas faire quoi que ce soit qui porte atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Alors, je peux vous dire qu'en matière de censure, l'extrême droite vient régulièrement sur le terrain de la dignité humaine pour faire interdire des films, des livres, des expositions. Donc, c'est extrêmement dangereux, ce dispositif, par rapport à ce que nous faisons, nous, en particulier à l'Observatoire de la liberté de création. Surtout que certaines régions ont profité de ce texte, de décret, qui normalement, ce contrat d'engagement républicain, normalement, il est intangible, on ne peut pas y ajouter. Chez M. Wauquiez, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Chez M. Wauquiez, on a une plume très libre, et le contrat d'engagement républicain qu'il propose a ajouté au texte, parce que pour lui, il n'y en avait pas assez. Et alors, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté un truc sur les tenues vestimentaires, évidemment, hein, dans l'article premier, et puis il a changé les destinataires, c'est-à-dire que normalement ce dispositif ne vise que les associations et les fondations. Chez M. Wauquiez, ce terme imposé par le contrat est transformé en bénéficiaire. Et si vous êtes une société de production audiovisuelle ou un réalisateur ou un scénariste en région Rhône-Alpes et que vous demandez une subvention pour faire votre texte, votre scénario, votre film, ou produire le film, eh bien, on vous impose, de façon complètement illégale, de signer ce contrat d'engagement républicain. Vous voyez bien que par là, ce que l'on vise au travers de son contrat d'engagement républicain, c'est de surveiller la création dans la région Rhône-Alpes. Et alors, ils ont ajouté un élément à l'article 6, évoqué à rajouter, et tous les représentants de la République, contrairement au texte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus critiquer personne en région Rhône-Alpes. Ce dispositif est un dispositif qui est à la limite du dispositif autoritaire que l'on peut retrouver dans des pays qui ne sont pas démocratiques. Donc évidemment, quand ce texte va se retrouver confronté aux normes de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a de fortes chances qu'il saute en totalité ou en partie, mais il ne va pas sauter directement, sauf si des tribunaux sont suffisamment courageux pour s'adresser au Conseil constitutionnel. On sait qu'il est un tout petit peu mou de la hanche en ce moment, le Conseil constitutionnel, et qu'il a tendance à entériner un peu tout et n'importe quoi. Mais derrière, quand on a épuisé tous les recours, vous savez, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France. Alors la France n'aime pas trop ça quand même, même si elle est de plus en plus condamnée sur tout un tas de sujets, mais quand même elle se met dans les clous des condamnations à plus ou moins grande échéance.
Parlons France.
La radio autrement.
La terre, c'était le charbon.
Des sujets régionaux,
un ton libre,
des reportages de terrain,
du débat contradictoire mais constructif,
une parole franche.
Parlons France.
La laïcité, son approche, sa connaissance et sa promotion concrète se conjuguent aussi au quotidien et au niveau local. L'association Promotion Laïcité Hainaut nos œuvres dans notre région. Quelles actions concrètes mène-t-elle et comment agit-elle ? Martine Lavorel et Maurice Habitbol, bénévoles de cette association, répondent à ces questions.
L'une de vos premières actions au sein de Promotion Laïcité en Hainaut était un échange sur la laïcité, une conférence. Martine Lavorel, qui était l'invité de cette conférence et que s'est-il dit ?
Alors, le conférencier était Henri Pénard-Ruiz, qui est un universitaire philosophe et qui a déjà, dont c'est vraiment le principal thème, la laïcité. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment le dernier, le Dictionnaire amoureux de la laïcité. Il a retracé un peu l'histoire de la laïcité en montrant combien c'était une idée actuelle et de progrès.
Pourquoi c'était important de l'inviter et de reparler de la laïcité, de recontextualiser la laïcité ?
Ben parce que il semble que ça soit un concept qui est en tout cas mal évalué, mal compris, et qu'il est nécessaire de toujours revenir sur les fondements.
Au cours de ces précédentes années, toujours sur le thème de la laïcité, vous êtes intervenu dans les écoles. Qu'avez-vous dit aux élèves, aux enseignants ?
Ben, le thème, c'est toujours le même, c'est d'échanger sur ce qu'est la laïcité, une notion ouverte qui permet la liberté de conscience, la liberté d'expression, le fait de refuser tout dogme, de réfléchir par soi-même, que la liberté, la définition de la liberté, c'est bien de faire ce que l'on souhaite faire dans la mesure où on ne nuit pas à la liberté de l'autre. Et pour la laïcité, c'est pareil. Si on veut avoir la liberté de conscience, il faut respecter l'autre et bien sûr être respecté dans ses propres opinions.
Et dans les classes, dans les écoles, il y a la charte de la laïcité, des valeurs républicaines qui est affichée. C'est l'occasion d'expliquer ce qu'est cette charte ?
Oui, ben bien sûr, c'est l'occasion d'expliquer ce que c'est que la charte, parce que bon, entre l'affichage et puis le dialogue, il y a un petit écart qu'il est nécessaire de réduire. Pour l'instant, nous n'avons pas encore évalué nos interventions, mais en tout cas, on va dire que c'est une pierre pour pouvoir continuer à construire sur la notion de laïcité, de vivre avec les autres et de pouvoir continuer à dialoguer sur les convictions. Donc que c'est possible de vivre ensemble tout en n'ayant pas forcément les mêmes idées et que c'est ça l'idée de la République.
Mais la laïcité, ce n'est pas un dogme. C'est justement avoir des discussions, des échanges à propos de la laïcité permet justement de montrer que chacun peut se retrouver dans cette notion, retrouver sa liberté d'être un citoyen comme les autres et d'être respecté pour autant que la loi commune soit respectée. C'est très important. La laïcité, elle s'adresse aux citoyens, à la loi commune, au respect des valeurs de la République, au respect de la loi définie dans le cadre de la République. Voilà, c'est ça la laïcité.
Vous parliez de la conférence et il y a eu un après, puisque il y a eu des cadres d'une commune dans le Valenciennois qui souhaitent vous rencontrer pour parler plus précisément de laïcité dans la commune. Vous pouvez en parler, Maurice Habitbol ?
Pour l'instant, ben, la rencontre n'a pas eu lieu, elle va avoir lieu. Ce qui est prévu au programme, c'est d'une part faire un peu comme on vient de le faire avec vous, expliquer comment nous voyons, nous, la laïcité comme notion ouverte, comme notion de progrès et de liberté, de conscience et de liberté d'agir et de s'exprimer. Et dans un deuxième temps, répondre aux questions, sans doute à propos des problèmes que, dans l'exercice de leur profession, ils peuvent être amenés à rencontrer avec les citoyens qui s'adressent à eux en tant que responsables de l'administration municipale.
Pour ces mairies, pour ces professeurs, pour ces institutions aussi, c'est intéressant pour vous d'être cette association et d'être cet intermédiaire sur le local pour parler de la laïcité et puis pour répondre aussi aux questionnements?
Ben oui, vous savez, je crois que la législation impose dans tous les services publics d'avoir des référents laïcité. Et donc, ça oblige chacun à se poser la question, puisqu'il s'agit d'une notion large et ouverte, d'une philosophie de la vie en commun, des tas de questions peuvent se poser et échanger par rapport à ces questions. Nous, en tout cas, nous n'avons pas des recettes à proposer aux gens qui rencontrent des difficultés. C'est simplement d'échanger avec eux sur ces difficultés et de réfléchir à comment, dans l'esprit de la laïcité, répondre aux problèmes qui se posent.
Il y a des exemples précis que vous avez en tête ?
Le problème des accompagnants, des mamans qui accompagnent leurs enfants dans les sorties scolaires. Est-ce que on doit accepter le voile ou est-ce qu'on ne doit pas accepter le voile ? C'est pas réglé par la législation. Donc, vous voyez, ça peut poser des problèmes d'interprétation et de discussion. Nous, on n'a pas de formule miracle. Ce qu'il faut, c'est laisser aux responsables le soin de voir si c'est du prosélytisme ou pas. Si c'est du prosélytisme, ça n'a pas lieu d'être. Si c'est une manière d'être, pourquoi pas laisser les choses se passer, etc. Voilà, un exemple parmi d'autres. Vous pouvez avoir dans les hôpitaux, par exemple, des personnes qui veulent se faire soigner que par une femme, s'il s'agit d'une femme. Est-ce que c'est une chose qui doit être respectée ? Bon. Pour nous, c'est quelque chose d'inacceptable. Et on constate que souvent, les responsables dans les services publics utilisent des moyens de détourner la législation. Au lieu d'affronter les problèmes, de discuter, d'expliquer pourquoi. Justement, Henri Pénarus citait un exemple à propos des accompagnants scolaires. Et il y a une dame qui lui disait, mais... monsieur, moi je porte le voile et pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'accompagner en sortie scolaire ? Et de manière très maligne, monsieur Pénarus lui dit, enfin il nous a raconté ça, lui dit, mais est-ce que vous accepteriez que quelqu'un avec une kippa accompagne vos enfants en sortie scolaire ? Ah non, dit-elle, non, ça j'accepte. Alors pourquoi voulez-vous que quelqu'un d'autre accepte que vous alliez avec votre voile ? Enfin bon, on peut discuter de cet exemple, mais c'est montrer ce qu'on peut faire. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de faire réfléchir, de discuter et d'adopter la solution qui paraît la meilleure dans le respect des autres.
Ce magazine, nous vous proposons d'écouter le son d'une vidéo réalisée avec des élèves d'un lycée professionnel de Grasse après l'assassinat de Samuel Paty.
Alors aujourd'hui, on va aborder notre premier chapitre en éducation morale et civique, la laïcité. Ça vous fait penser à quoi, la laïcité ?
C'était un professeur, un simple professeur, qui aimait son métier, qui comptait pas ses heures. Un professeur dont le seul labeur était la transmission de nos simples valeurs. Ne pas se tromper d'ennemi, tu pries sur un tapis, tu portes un crucifix. Tu portes un crucifix. Ici c'est notre pays, il aime toutes ses brebis, même quand la haine s'intensifie. Même quand la haine s'intensifie. Pour un dessin, une vie, parce que je suis sa malpatie. On restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Pour un dessin, une vie, parce que je suis sa malpatie. Restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Nanana, je suis Dieu et nous sommes une somme de gens et de personnes. Ces anonymes, un cœur qui bat, des citoyens, les mêmes combats. Je suis Dieu et nous sommes une somme de gens et de personnes. Ces anonymes, un cœur qui bat, des citoyens, les mêmes combats. L'enfant de la République doit savoir rester pudique. Il garde pour lui sa pratique, passe instinctif au public. Vivre ensemble c'est partager, vivre ensemble c'est accepter nos différences, nos ressemblances, c'est ça la France, c'est ça la France. Une seule devise mes frères et sœurs, une seule devise pour un même cœur. Et à l'école du juge Ferry, je suis tué, nous sommes unis, ouais. Pour un dessin, une vie, parce que je suis sa malpatie. On restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Pour un dessin, une vie, parce que je suis sa malpatie. On restera pas dans nos bulles, on gagnera cette partie. Je suis Dieu et nous sommes une somme de gens et de personnes. Ces anonymes, un cœur qui bat, des citoyens, les mêmes combats. Je suis Dieu et nous sommes une somme de gens et de personnes. Ces anonymes, un cœur qui bat, des citoyens, les mêmes combats.
De la France, la Fédération des radios associatives du nord de la France.
Pour aller plus loin, on peut vous conseiller la lecture du livre de Patrick Veil intitulé « De la laïcité en France » en folio chez Gallimard. Autour de la table pour ce 26e numéro de Parlons Franf, Jean-Philippe Planck et Julien Maille de Radio Plus à Douvrin, Joris Nassens de Radio Club à Wallers-Arenberg, Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée à Vitry-en-Artois.
Et Jean Pasqualini de Radio PFM à Arras.
A bientôt pour le prochain numéro de Parlons Franf, le magazine de la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de la planète. Mmh.